contrairement à une maladie qui rejoint tout à fait ce que pense Pascal, et on va l'aborder, je n'ai pas du tout ce fantasme contemporain, l'éternité ou dit l'immortalité de son propre moi. Et le défaut majeur de beaucoup de nos contemporains, et notamment de beaucoup de contemporains qui ont des œuvres. Leur obsession, c'est de passer à la postérité. Je trouve ça d'une vanité. On n'est que de passage. Il faut une fois pour toutes se dire que sur Terre, on est de passage et qu'on a à faire ce qu'on doit faire. Et point. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette prétention à vouloir passer à la postérité? C'est un ridicule. Mais hélas, que Pascal condamne largement, quoi. Mais hélas, qui est une prétention, il est passé à la postérité, mais telle n'était pas du tout sa visée. C'était pas du tout sa visée. Non, mais la transmission, elle se fait à travers, par exemple... Non, c'est pas un choix de postérité, c'est de faire un enseignement, un passage auprès de ses contemporains. Et après, appartient aux contemporains.
Si personne n'était passé à la postérité, on serait bientôt vers l'ensemble.
Oui, mais il y a deux plans différents. Il y a deux plans différents qui n'ont rien à voir. Que des œuvres passent à la postérité, c'est l'affaire de ceux qui ont reçu ces œuvres. Que la personne elle-même ait cette prétention, c'est un autre problème. C'est pas la même question, c'est deux questions différentes. C'est pas sur le même plan. C'est dissymétrique, si vous voulez. Une fois, on l'abordera plus tard avec les Lévinas, il faut comprendre que la relation à l'autre doit être dissymétrique. C'est-à-dire que ce qui m'appartient à moi n'est pas l'affaire forcément de l'autre, et ce qui appartient à l'autre, y compris par rapport à moi, mais n'est pas mon affaire. Il faut séparer. Si on cherche la symétrie, ce qui est aujourd'hui... le modèle de la relation, y compris pour les couples, la relation symétrique, c'est une impasse, c'est qu'un jeu de miroir, la relation symétrique. Il faut être vraiment dans la pensée de l'asymétrie de la relation de l'un à l'autre. Donc, que l'autre, qui a été son élève, son enseignement, décide qu'il est important de fixer parole, l'œuvre de celui qu'il a enseigner, c'est l'affaire de celui qui l'a enseigné, à qui ça a été enseigné. C'est pas l'affaire de l'enseignant. Voilà, bref. Donc, dans cet esprit-là, venons-en au premier texte de Pascal. Alors, j'ai eu le temps de tirer un exemplaire pour ceux qui n'auraient vraiment pas du tout cela. Donc, le premier texte qui s'appelle, donc... extrait des pensées, c'est plusieurs fragments autour du thème, extrait sur l'amour propre et le moi haïssable. Donc, je lis au fur et à mesure, à haute voix, et puis on s'arrêtera au fur et à mesure qu'il y a des commentaires à faire ou des explicitations ou des réactions de votre part. Voilà. Donc, c'est les pensées, vous savez, c'est organisé par fragments sur successifs. Ces fragments, c'est des courts textes. Ils sont numérotés, hein, pas par Pascal, mais par les éditeurs successifs. Le moi est haïssable. Alors ça commence par une espèce de dialogue réinventé par Pascal, mais qui correspond à un débat réel qu'il a eu avec le sieur Damien Miton, avec un T ou deux T, qui est un contemporain de Pascal et qui était un ami de Pascal qui appartenait au mondain ou au libertin. Parce que Pascal a fréquenté ces gens-là, c'était des gens du beau monde, souvent des intellectuels, des gens brillants, qui avaient la pratique des salons, soit autour du roi ou pas forcément autour du roi. Il y avait beaucoup de salons, souvent d'ailleurs salons à l'initiative de grandes dames, Madame de Scudéry, Madame de Sévigné, etc., qui invitaient régulièrement dans leur salon un certain nombre de gens, souvent des intellectuels ou des gens cultivés de l'aristocratie de l'époque, et c'était pour discuter de questions philosophiques, politiques, artistiques, etc. Voilà. Donc, Miton est un des habitués de ces salons, on pourrait dire ces salons intellectuels, alors qu'appartenait donc à cette mouvance des libertins. Alors, les libertins, il faut l'entendre dans le sens précis de l'époque, c'est ceux qui avaient une pensée, aujourd'hui on dirait libérale au sens américain du terme. Libéral au sens américain, il faut entendre par là, non pas libéral au sens économique, mais au sens de la conception de la société et des mœurs, c'est-à-dire qui mettent la liberté des individus au premier plan. C'est ça les libertins de l'époque, c'est des gens qui veulent s'affranchir de la rigidité de la société monarchique catholique de l'époque. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en rupture avec le roi, personne n'était réellement en rupture avec le roi, ni avec le catholicisme, personne ne pouvait l'être, sauf les protestants, mais ça leur a coûté cher dans un long premier temps. Rappelez-vous des guerres des religions. Mais ceux qui affirmaient une liberté de pensée. Donc, Miton, Damien Miton est un de ceux-là, et Pascal fréquentait ces salons avant sa rupture, où il était très jeune reconnu comme une grande figure intellectuelle et surtout une grande figure des sciences, c'est-à-dire mathématiques et physiques. Mais vous savez que jusqu'au 17e inclus, il n'y avait pas le cloisonnement catastrophique qu'on connaît aujourd'hui et qui s'est instauré surtout à partir du 18e et a fortiori du 19e, ce cloisonnement entre les disciplines de pensée et en particulier le cloisonnement entre les sciences et les lettres et sciences humaines, qui est un cloisonnement dont on subit aujourd'hui largement les conséquences. Quoi. C'est un cloisonnement catastrophique. Donc Pascal était à la fois un grand scientifique, reconnu comme tel dès l'âge de 20 ans, et en même temps une figure de la pensée, une figure intellectuelle, un philosophe, tout à fait apprécié. Donc Pascal fréquentait les salons à l'époque. Donc voilà, ça commence avec la restitution de ce petit dialogue avec Miton. Le moi est haïssable. Vous, Miton, le couvrez. Vous ne l'ôtez point pour cela. Vous êtes donc toujours haïssable. Vous voyez, Pascal était un polémiste redoutable. Hein. Il était rentre-dedans et il n'avait pas peur d'envoyer des scuds commandés aujourd'hui à l'égard de ceux avec qui il n'était pas d'accord. Hein. Et donc ensuite, Miton répond, « Point !» Car en agissant comme nous faisons, obligamment pour tout le monde, on n'a plus sujet de nous haïr. Alors ça renvoie ça à un extrait de Miton a écrit un texte qui est Pensée sur l'honnêteté et qui figure dans ce recueil de différentes pensées de moralisme du 19e, qui est Les œuvres mêlées de Saint Évremond. Voilà. Et Pascal lui répond, cela est vrai. Si on ne haïssait dans le moi que le déplaisir qui nous en revient. Mais je le hais, dit Pascal, le moi, hein, parce qu'il est injuste, parce qu'il se fait centre de tout, je le haïrai toujours. En un mot, le moi a deux qualités, alors qualité au sens de caractéristique. Hein. En un mot, le moi a deux caractéristiques, il est injuste en soi, en ce qu'il est le centre, en ce qu'il se fait centre de tout. Il est incommode aux autres en ce qu'il les veut asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Vous en ôtez l'incommodité, mais non pas l'injustice. Et ainsi, vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent la justice. Vous ne le rendez aimable qu'aux injustes, qui n'y trouvent plus leur ennemi. Et ainsi, vous demeurez injuste et ne vous pouvez plaire qu'aux injustes. C'est, on ne peut plus clair, là, la charge de Pascal. Entre parenthèses, ça résonne d'une façon, je trouve, extrêmement contemporaine par rapport à notre monde actuel dominé par la culture de l'individualisme, où, effectivement, notre société, largement, est perturbée par le fait que le jeu social, c'est trop souvent une querelle d'ego, comme on dit aujourd'hui. Pour reprendre la formule de je ne sais plus quel essayiste qui est une formule heureuse, on est dans un monde du tout à l'ego. Et du coup, au 17e, Pascal pressent déjà dans cette société qui est l'avènement de la modernité, véritablement. Pascal pressent déjà les impasses de la culture du moi. D'une certaine manière, ce qu'il veut dire par là, c'est que l'être du sujet individuel est forcément mu par ce que Nietzsche aura appelé après une volonté de puissance qui fait que chacun est tyrannique dans l'affirmation de son être par rapport aux autres et que ça crée une société impossible. Mais alors, deuxième fragment qui est tout à fait intéressant, Pascal s'interroge, c'est quoi le moi au fond ? Qu'est-ce que le moi ? Alors, il faut avoir en arrière-plan le contexte du dialogue à distance, parce qu'ils ne se sont jamais vus qu'une fois, entre Pascal et Descartes. Et Descartes, souvenez-vous, c'est lui qui, d'une certaine manière, fonde, d'une façon en tout cas définitive, il n'est pas le seul, mais il fonde de façon définitive le moi rationnel, le cogito, le moi pensant, l'homme comme moi pensant, l'individu humain comme un moi pensant, d'où la fameuse phrase qui est devenue une espèce de poncif, « Je pense, je suis. Cogito, ergo sum. » Donc le moi pensant, qui est véritablement la pierre angulaire de la pensée de Pascal. Vous vous souvenez du raisonnement de Pascal. Pascal, en bon philosophe rationaliste, c'est-à-dire qui est ému par la raison, qui croit en la puissance de la raison humaine, de l'esprit humain, siège de la raison, et de la raison universelle, c'est-à-dire qui est partageable par tous, Descartes s'interroge de la façon suivante. Qu'est la base de la science, au fond, et de la connaissance ? Pascal dit, et tout ce que je pense savoir, et toutes mes... Descartes, pardon. Et tout ce qui est de l'ordre de mes certitudes, de ma vision du monde, de mes pensées sur le monde, et si tout ça, c'était une vaste illusion. Donc la méthode de Descartes, c'est le doute, ce qu'on appelle le doute méthodique. C'est-à-dire que je mets en suspens, ce qu'après, bien après, les phénoménologues, c'est-à-dire quelqu'un comme Edmond Husserl, ont appelé au XXe siècle, d'un terme grec, époké, E-P-O-C-H-E, accent circonflexe, c'est un mot grec, c'est une suspension du jugement, une mise entre parenthèses, voilà. Ça rejoint ça. La mise en doute de tout ce qu'on pense être des évidences, et qu'on peut appeler des clichés, des prénotions, des idées toutes faites, qui sont des illusions. Et ça peut être des croyances, tout à fait. Des opinions, au fond. Aujourd'hui, on pense à travers des opinions. Tout, la perception, les sens, etc. Donc, ce que dit Descartes à partir de là, c'est qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'il reste une seule certitude à partir de laquelle je pourrais fonder une connaissance ? Il dit, il reste une certitude, c'est que je suis en train de douter, c'est-à-dire de penser. Et donc, si je pense, c'est que je suis. Donc, la seule certitude, c'est moi. Ce qui explique que toute la philosophie de Descartes va mettre au centre le moi. Le moi qui est le noyau de certitude centrale à partir duquel je peux tout construire. Alors, entre parenthèses, ça a été largement battu en brèche, le cartésianisme, comme on le dit, bien après Pascal, mais Pascal est d'une certaine manière prémonitoire de cela. Et c'est en ce sens-là que Pascal est incontournable, comme on aime à dire aujourd'hui. C'est que je dirais que Pascal préfigure, je vais faire exprès de dire ça comme ça, Lacan. Il préfigure Lacan, il préfigure le structuralisme du XXe siècle. Pourquoi ? Le structuralisme du XXe siècle avec des gens comme Lacan, comme Lévi-Strauss, par rapport à l'anthropologie, comme Benveniste et Jacobson pour la linguistique, comme dans un second temps Foucault, comme Roland Barthes, le grand analyste des textes littéraires, ou grand sémiologue aussi. Tous ces gens-là, ce qu'on appelait les structuralistes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, en fait, le moi, ils remettent en cause la base de Descartes. Ils disent, au fond, le moi, c'est une illusion, ça n'existe pas en tant que tel. Et je reprends, parce que je ne veux pas m'étendre plus longtemps là-dessus, je reprends la fameuse formule, notamment de Lacan, mais qui s'est repris par les autres. Je ne peux pas dire « je pense » ou « je parle ». La seule chose que je peux dire en toute rigueur, ça pense en moi, ça parle en moi. C'est-à-dire que ce que je crois énoncer dans un discours qui serait le mien, ce n'est qu'un effet de structure sociale, linguistique, et c'est la langue, la structure linguistique qui me fait penser, qui me fait élaborer un discours qui n'est donc pas de moi en propre. Je ne suis pas un moi souverain qui aurait une maîtrise complète du discours que je tiens. Je ne suis qu'un réceptacle, qu'un effet de structure linguistique, et aussi on peut ajouter de structure sociale, etc. Vous savez, Lévi-Strauss, en étudiant les phénomènes de parenté dans les sociétés qu'il étudie traditionnelles, montre en fait comment les alliances, les mariages ne sont pas du tout des décisions individuelles, par exemple amoureuses, sont des effets de structure de parenté. C'est des lois extrêmement prégnantes des systèmes de parenté qui fait que un tel va s'allier avec un tel, se marier avec un tel, etc. Voilà, c'est les structures sociales, les structures de parenté quand il s'agit de Lévi-Strauss, les structures linguistiques quand il s'agit de Lacan et également des linguistes de l'époque, Jacobson ou Benveniste, qui font que j'ai un discours déterminé d'une certaine manière par cela. Bon, d'une certaine manière, c'est une... Non, on va laisser de côté le déterminisme. Mais largement induit par cela, mais en tout état de cause, ce qu'il y a de commun entre Pascal et le structuralisme, c'est la remise en cause du moi tout-puissant et auto-centré. Et de ce point de vue-là, Pascal est vraiment le précurseur de cette critique du moi, qui est une critique à la fois structurelle, mais aussi une critique éthique, morale, chez Pascal, ce qui n'est pas le cas des structuralistes, pour qui la morale et l'éthique n'a aucune place. Il y a des effets, des conséquences éthiques, mais ce n'est pas le point de départ. Alors, on va voir dans le second fragment ce que je viens de dire, d'une certaine manière. Donc, Pascal s'interroge, mais au fond, qu'est-ce que le moi ? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir ? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi ? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi. Où donc est-ce moi s'il n'est ni dans le corps, s'il n'est ni le corps, ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme sinon pour ses qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables ? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement, et quelques qualités qui y fussent, cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement ses qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Donc ça, c'est décapant, hein, c'est une leçon structuraliste déterminante. C'est qu'en gros, le moi, qui est la pierre angulaire du système de Descartes, le moi n'existe pas, il est introuvable, au fond. Dans le jeu social, le moi est introuvable. C'est des attributs, c'est des habits, d'une certaine manière, qu'on aime, mais les habits ne font pas le moine, n'est-ce pas ? Ne font pas le moi. Pascal manie largement l'ironie socratique, c'est-à-dire que, loin de Pascal de penser, au contraire, il va se retirer du jeu social. Pascal, clairement, ironise en disant cela. Du coup, ceux qui sont dans ce jeu social des apparences, etc., ben, ils ont raison. Mais il ne dit pas qu'il faille être là-dedans. C'est toute la démarche de Pascal. Après, pour trouver quoi ? Pascal dirait pour trouver la vérité. Mais c'est pas un moindre objectif, quand même. On est dans le faux, l'illusion, le non-vrai, et l'enjeu, c'est de trouver la vérité. Ben, la vérité chez Pascal rejoint d'une certaine manière, je réinsiste là-dessus, vu que je fais l'analogie avec le structuralisme, rejoint le réel lacanien. La vérité, c'est quelque chose... Alors, chez Pascal, ça va être Dieu. Ça va être le premier principe, c'est le tout autre, ce qui n'est pas maîtrisable directement, ce qui déborde de tous côtés. Et que l'intelligence de l'esprit humain ne peut qu'appréhender, qu'approcher, mais pas du tout atteindre, d'une certaine manière. C'est ça, c'est la question de l'être. Si on se situe sur un plan métaphysique, mais la vérité de l'être, ce n'est pas le moi. Le moi en tant qu'introuvable, et qui est dans la tension, si je reprenais les néo-platoniciens, ce n'est que la trace amoindrie, dégradée, du premier principe, c'est-à-dire de l'être à, de l'un bien, comme disent les néo-platoniciens. Et l'homme est le dépositaire d'une trace de cela. Alors, c'est pour cela que, en creusant cette trace, on peut appréhender, tu vois, l'homme ne peut rien faire d'autre. En creusant cette trace, l'homme peut appréhender quelque chose de cette vérité première de l'être. Voilà. Je continue parce qu'il faudra vraiment qu'on lise tous les textes. Donc le fragment suivant, qui ne hait en soi son amour propre et son instinct qui le porte à se faire Dieu, est bien aveuglé. Qui ne voit que rien n'est si opposé à la justice et à la vérité. Donc ce rapport à soi, comme moi, au centre, c'est ce qu'il appelle l'amour propre. Et donc, évidemment, Pascal fustige l'amour propre. Parce que c'est opposé à la vérité, donc à la justice. On est dans un jeu d'illusions qu'il précise par la suite, vous allez voir. Car il est faux que nous méritions cela, et il est injuste et impossible d'y arriver, puisque tous demandent la même chose. C'est donc une manifeste injustice où nous sommes nés, dont nous ne pouvons nous défaire et dont il nous faut nous défaire. Cependant, aucune religion n'a remarqué que ce fût un péché, ni que nous y fussions nés, ni que nous fussions obligés d'y résister, ni n'a pensé à nous en donner les remèdes. Enfin, il précise par la suite. Le fragment suivant. La nature de l'amour propre et de ce moi humain et de n'aimer que soi et de ne considérer que soi. Mais que fera-t-il ? Il ne saurait empêcher que cet objet qu'il aime ne soit plein de défauts et de misères. C'est pour ça qu'on est dans l'auto-illusion, dont on va voir après que Pascal montre comment elle est alimentée par le regard des autres. Il veut être grand et il se voit petit, si on est lucide, c'est insupportable. Si on est lucide sur soi, on est dans ce que décrit Pascal. Il veut être grand, il se voit petit. Il veut être heureux, il se voit misérable. Il veut être parfait, il se voit plein d'imperfections. Il veut être l'objet de l'amour et de l'estime des hommes, et il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur mépris. Cet embarras où il se trouve produit en lui la plus injuste et criminelle passion qu'il soit possible de s'imaginer, car il conçoit une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend et qui le convainc de ses défauts. Et c'est pour ça, notamment, je vous renvoie au texte qu'on avait abordé précédemment sur le divertissement. C'est pour ça que l'homme, face à cette vérité insupportable, l'homme va chercher toute sa vie à se divertir, qui est une façon de se distraire, de se détourner de ce face-à-face avec soi-même qui lui est insupportable. Donc, l'amour propre, pour Pascal, c'est une passion destructrice. Et là, on retrouve à fond des philosophes grecs, que ce soit les épicuriens ou les stoïciens, qui l'un comme l'autre montrent comment les passions, c'est ce qui va, d'une certaine manière, rendre l'homme malheureux. D'où, aussi bien chez les stoïciens que chez les épicuriens, cette règle qui est qu'il faut juguler ses passions. Il désirerait de l'anéantir, et nous pouvant la détruire en elle-même, il la détruit autant qu'il peut dans sa connaissance et dans celle des autres. C'est-à-dire qu'en gros, on s'arrange pour pas être lucide sur soi-même, pour pas connaître véritablement notre petitesse. C'est-à-dire qu'il met tout son soin à couvrir ses défauts, et aux autres, et à soi-même. Et qu'il ne peut souffrir qu'on les lui fasse voir, ni qu'on les voie. C'est sans doute un mal d'être plein de défauts. Mais c'est encore un plus grand mal que d'en être plein et de ne les vouloir pas reconnaître, puisque c'est y ajouter encore celui d'une illusion volontaire. Juste une remarque sur la langue et la grammaire du XVIIe qui utilise personne. Par rapport à notre langue actuellement, il y a toujours une inversion de l'objet direct qui est avant, de ne les vouloir pas reconnaître, alors qu'aujourd'hui on dirait de ne pas vouloir les reconnaître. Mais je trouve que c'est beaucoup plus beau en fait. De ne les vouloir pas reconnaître, je trouve que c'est une élégance de la langue beaucoup plus grande que la façon de dire de actuelle. C'est une parenthèse, hein. Nous ne voulons pas que les autres nous trompent. Et nous ne trouvons pas juste qu'ils veuillent être estimés de nous plus qu'ils ne méritent. Il n'est donc pas juste aussi que nous les trompions et que nous voulions qu'ils nous estiment plus que nous ne méritions. Alors, ainsi, lorsqu'ils ne nous découvrent que des imperfections et des vices que nous avons en effet, il est visible qu'ils ne nous font point de tort, puisque ce ne sont pas eux qui en sont la cause, et qu'ils nous font un bien, puisqu'ils nous aident à nous délivrer d'un mal qui est l'ignorance de ces imperfections. Ce qui est très intéressant, c'est une question qu'on se pose fréquemment aujourd'hui, notamment dans le cadre de l'amitié. Est-ce que, quand on sent que l'autre, l'ami, pour le dire trivialement, déconne, qu'il se comporte mal, qu'il a des attitudes déplaisantes, qu'il est en train de déraper, la question qui se pose, qui est précisément ce que pose Pascal, est-ce qu'on va, pour être gentil avec lui et pas se fâcher avec lui, faire comme si on ne voyait rien, ou est-ce qu'on va avoir le courage de la vérité, c'est-à-dire lui dire, écoute, mon gars, là tu déconnes, ça va pas, là tu dérives. C'est toute la question. Et ce que dit Pascal, et c'est hélas vrai, le plus souvent, on ne va faire que rester dans le jeu social des apparences. Donc on va continuer à lui dire, mon ami, t'es bien.
C'est le courage de la vérité.
C'est pas la vérité, c'est pas qu'on détienne la vérité sur l'autre avec un grand L et un grand V. C'est qu'on constate qu'il y a un jeu de tromperie et d'écart, un jeu de masque de l'autre à un moment donné. Et ça, effectivement, on l'observe et on peut le dire. C'est pas qu'on détienne la vérité. C'est on peut au moins cela. On peut au moins cela. Et ça, c'est à la portée de tout le monde qui est parfaitement lucide. Quand quelqu'un commence à avoir une enflure du moi, à ne parler que de lui en société, c'est un fait, je veux dire, un fait qu'il n'y a pas par rapport à la vérité de l'être dont on serait le détenteur. Et en fait, ceci renvoie à la leçon, j'avais évoqué cela l'autre fois, une leçon de tout un courant de sociologie, mais qui est de philosophie sociologique inspirée de Sartre, qui est ce qu'on appelle l'interactionnisme symbolique. Et je pense à Erving Goffman, vous savez, qui a beaucoup travaillé sur la fabrication du fou par rapport aux asiles, les gens enfermés dans des asiles, des hôpitaux psychiatriques, où il montre comment il y a tout un jeu social qui est que la société, dans ce jeu des interactions, fabrique quelqu'un dans un statut de fou. Bon, mais il a écrit plus largement des livres où il montre que, notamment dans les deux tomes de son œuvre maîtresse qui s'appelle « La mise en scène de soi dans la vie quotidienne ». C'est-à-dire qu'il montre comment la vie sociale, la vie en société dans la quotidienneté, c'est un jeu de théâtre où chacun se met en scène. C'est exactement ce que dit Pascal. Et un autre grand interactionniste qui s'appelait Anselm Strauss a écrit un livre qui est assez remarquable dont le titre est « Miroirs et masques », où il montre qu'en fond, le jeu social, la société, c'est n'est qu'un jeu de miroirs et masques, comme un carnaval, où chacun porte un masque, ce jeu d'être favorable, ce jeu des apparences, où on montre à l'autre un masque de soi flatteur, et où il y a un jeu de miroirs, c'est-à-dire que chacun dans l'image de l'autre cherche sa propre image flatteuse. Alors, tout ça est inspiré, tout ce courant de pensée interactionniste symbolique est largement inspiré d'une lecture de L'être et le néant de Sartre, et en particulier de cette scène dans L'être et le néant qui est magnifique, qui est autour de la mauvaise foi, qui est la scène du garçon de café qui joue à être un garçon de café. C'est un jeu social. Voilà. On comprend à partir de là l'extrême contemporanéité et l'acuité de Pascal à ce sujet. Le texte continue ainsi. « Que le cœur de l'homme est injuste et déraisonnable pour trouver mauvais, qu'on oblige de faire à l'égard d'un homme ce qu'il serait juste, en quelque sorte, qu'il fait à l'égard de tous les hommes. Car est-il juste que nous les trompions ? Il y a différents degrés dans cette aversion pour la vérité. Mais on peut dire qu'elle est dans tous en quelques degrés, parce qu'elle est inséparable de l'amour propre. C'est cette mauvaise délicatesse qui oblige ceux qui sont dans la nécessité de reprendre les autres, de choisir tant de détours et de tempéraments, c'est-à-dire de positions mesurées, tempérées, pour éviter de les choquer, pour qu'ils diminuent nos défauts, qu'ils fassent semblant de les excuser, qu'ils y mêlent des louanges et des témoignages d'affection et d'estime. Avec tout cela, cette médecine, c'est-à-dire ce remède, ne laisse pas d'être amer à l'amour propre. Il en prend le moins qu'il peut, et toujours avec dégoût, et souvent même avec un secret dépit contre ceux qui lui présentent. Ce remède, c'est de dire à l'autre à bout de sa vérité, quoi. Il arrive de là que si l'on a quelque intérêt d'être aimé de nous, on s'éloigne de nous, rendre un office qu'on sait nous être désagréable. Si on veut que l'autre continue de nous aimer, on évite de lui rendre service en lui disant « là, tu déconnes, mon vieux ». On nous traite comme nous voulons être traités. Nous haïssons la vérité, on nous la cache. Nous voulons être flattés, on nous flatte. Nous aimons être trompés, on nous trompe. C'est ce qui fait que chaque degré de bonne fortune qui nous élève dans le monde nous éloigne davantage de la vérité, parce qu'on appréhende plus de blessés ce dont l'affection est plus utile et l'aversion plus dangereuse. Et alors, Pascal en tire des leçons strictement politiques qui, à l'époque, il faut se resituer dans le contexte, sont d'un courage considérable, quoi. Pascal en tire des leçons politiques parce que, en gros, le jeu politique, le jeu des pouvoirs, de la reconnaissance des pouvoirs, ce n'est qu'un jeu de dupes, quoi. Un jeu de séduction, un jeu de dupes. Et donc, la suite est très claire. Un prince, c'est à l'époque de Pascal, quelqu'un qui a un pouvoir. Un prince sera la fable de toute l'Europe et lui seul n'en saura rien. C'est magnifique cette formule. Un prince sera la fable de toute l'Europe et lui seul n'en saura rien. La politique comme jeu complet de dupes. Entre parenthèses, c'est une analyse de ce qu'est le pouvoir politique, je pense, beaucoup plus profonde que le prince de Machiavel. Il faut faire le lien. Faites le lien avec le prince de Machiavel, qui est l'ouvrage politique majeur à l'époque, qui consiste, le prince de Machiavel, très précisément, c'est conseil à un prince, c'est comment conquérir le pouvoir et surtout le conserver. C'est une conception de ce qu'est le pouvoir. C'est une conception de ce qu'est le pouvoir, le prince de Machiavel. Et là, Pascal en fait une critique redoutable, simplement par cette fin. Ce que dit en gros Machiavel, on ne va pas se précipiter sur Machiavel, on ne s'en sortirait pas, c'est deux choses. Celui qui veut le pouvoir et le conserver doit maîtriser deux arts, l'art de la persuasion et l'art de la conviction. Mais la persuasion et la conviction, ça passe par l'art de la séduction. Et c'est précisément ce dont Pascal fait la critique redoutable. Un prince sera la fable de toute l'Europe, et lui seul n'en saura rien. Je ne m'en étonne pas. Dire la vérité est utile à celui à qui on l'a dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, parce qu'ils se font haïr. C'est une question qui est... Alors, je n'arrive plus à me soulever de quel film c'était, un film, je pense, des années 70, dont la question centrale, c'était... La vérité est toujours révolutionnaire. C'est-à-dire, pour changer la société, pour faire une révolution, il faut toujours tenir la vérité. Et c'était une critique de l'échec de toutes les révolutions communistes dans ce film, qui consiste à dire que le totalitarisme qui en a résulté n'est qu'un effet de ce que critique Pascal, c'est-à-dire que c'est qu'un effet de renoncement à la vérité. Mais regardez, je prends un simple exemple, la pratique stalinienne ou la pratique maoïste qui a consisté à maquiller les archives quand quelqu'un tombe en disgrâce. Il y a une photo où les 4-5 dirigeants sont là, il y a un des dirigeants qui tombe en disgrâce, on l'enlève de la photo. Zinoviev, etc. Voilà typiquement une logique politique pour garder le pouvoir où la vérité n'est pas une exigence. Et c'est ce que dit Pascal, quoi. Dire la vérité est utile à celui à qui on l'a dit, mais désavantageux à ceux qui la disent parce qu'ils se font haïr. Et c'est comme ça que des milliers et des milliers de personnes se sont retrouvées dans les camps. Le goulag ou les camps de rééducation en Chine. Or, ceux qui vivent avec les princes aiment mieux leurs intérêts que celui du prince qu'ils servent. Et ainsi, ils n'ont garde de lui procurer un avantage en se nuisant à eux-mêmes. C'est le problème des courtisans, qui est un phénomène social majeur. Ce malheur est sans doute plus grand et plus ordinaire dans les plus grandes fortunes, les conditions sociales les plus élevées. Mais les moindres n'en sont pas exemptes, parce qu'il y a toujours quelque intérêt à se faire aimer des hommes. Autrement dit, ce que dit Pascal, c'est que c'est pas que le problème de la haute, du monde d'en haut. C'est pas le problème que des proches des princes. C'est le problème à tout niveau de la société. C'est-à-dire qu'à tout niveau, la société fonctionne pareil. Et c'est pour ça que Pascal, là aussi, a une analyse politique, mine de rien, qui est déterminante et qu'il faut comprendre et qui est plus que jamais vraie. Le pouvoir n'est jamais que le reflet de la société. C'est-à-dire une société n'a jamais que les dirigeants qu'elle mérite. Et ça, c'est ce que dit Pascal. Et dans les temps de société médiocre, on n'a que des dirigeants médiocres. On a beau se focaliser, se gargariser de sobriquets concernant Trump. Trump, le problème, c'est qu'il est le large reflet de la société américaine. Et c'est ce qui fait qu'il risque bien de repasser. Alors que tous les gens, ben, comme nous, d'une certaine manière, bien pensants, quand Trump a été élu, tout le monde a dit oh, « il va pas tenir un an. Au bout d'un an, il va se faire dégager, il est tellement nul. » Eh bien, ce qu'on constate, c'est que c'est pas du tout ce qui se passe. Parce que, c'est pour ça qu'il faut toujours ramener la question du politique à la question des mœurs, donc à la question éthique. Il n'y a pas de grande politique s'il n'y a pas de grande éthique dans un monde. Et on le voit bien. Qu'est-ce qui a coulé la gauche socialiste en France? C'est Cahuzac, pour être clair. Cahuzac. Ah ben, c'est le coup de grâce déterminant. Déterminant. Mais c'est la goutte d'eau parce que c'est l'aboutissement de cette logique-là, ou c'est le révélateur de cette logique-là. Qu'en gros, la gauche, l'idée de gauche, ou la grandeur de la gauche, c'était de dire la gauche est morale et éthique. C'est-à-dire qu'elle ne poursuit pas des intérêts individuels. Et le problème, c'est que c'est révélé le fait que les jeux de pouvoir étaient dans le reflet de la société globale, quoi. Voilà. Mais les moines n'en sont pas exempts parce qu'il y a toujours quelque intérêt à se faire aimer des hommes. Ainsi, la vie humaine n'est qu'une illusion perpétuelle. On ne fait que s'entretromper et s'entreflatter. Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence. C'est un jeu social tellement courant. Mais il y a un aigu, il y a une lucidité de Pascal sans concession qui est magnifique. Quoi. L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle tromperie, et peu d'amitié subsisterait si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu'il n'y est pas, quoi qu'il en parle alors sincèrement et avec quoi passion. L'homme n'est donc que déguisement, que mensonge et hypocrisie, et en soi-même et à l'égard des autres. Il ne veut donc pas qu'on lui dise la vérité, il évite de la dire aux autres, et toutes ses dispositions si éloignées de la justice et de la raison ont une racine naturelle dans son cœur. Il dit que... Non, faut distinguer son analyse, son constat, comme dirait Milner, son constat sociologique, anthropologique, où de fait c'est ce qui se passe, de son discours de philosophie éthique, où il dit que l'homme a ce devoir de vérité qui doit l'emporter dans les situations de la vie. Là, il est au niveau du constat, il en est au niveau du constat social. On pourrait en tirer Stefan Zweig par rapport à ses critiques, c'est la même que celle de Freud, de la bourgeoisie autrichienne catholique de Vienne du XXe siècle. C'est un constat que Pascal aurait fait de façon identique. C'est-à-dire qu'en gros, cette société obéit à des règles d'hypocrisie et d'illusion totale. Et c'est ce que Freud critique, et Freud explique que la névrose familiale naît de cela, est née de la non-vérité. C'est-à-dire que Freud est pascalien de ce point de vue-là. Il n'y a aucun écart entre les deux. Freud dit que être dans l'illusion et le mensonge et la non-vérité, c'est ce qui produit psychiquement la névrose. Et Pascal dit la même chose. Et alors, là, c'est pas la même chose. Non. Kafka, c'est... Il faudra analyser Kafka et son rapport à son père, etc. C'est... Il vaut mieux rester sur Zweig, le constat de Zweig et de Freud par rapport à la société viennoise, qui est complètement dans la même logique que Pascal, complètement. Et d'autre part, on ne peut pas tirer ces conséquences que tu évoques pour Pascal. La meilleure preuve, c'est que l'éducation de Port-Royal est l'inverse de l'éducation des jésuites. L'école des jésuites, alors qu'on pense que les jésuites ont une vision plus libre de l'homme, qui flatte le moi. Les jésuites, c'est Michel Foucault qui a parfaitement analysé ce qu'est l'éducation jésuitique dans Surveiller et punir. Le maître mot, c'est disciplina. C'est-à-dire que dans les écoles qui sont généralement des internats des jésuites, l'obsession de l'éducateur, c'était de mater le corps, et notamment par rapport aux pulsions sexuelles de l'adolescent pubère. Mater le corps et l'esprit. Donc c'est précisément ce que tu décris, alors que les petites écoles de Port-Royal, c'est une pédagogie d'une modernité absolue. Je veux dire, aujourd'hui, l'école n'est même pas à la moitié de la hauteur de ce qu'est la grandeur de la pédagogie des petites écoles de Port-Royal. C'est des groupes de 6 personnes, enfin je l'avais évoqué l'autre fois, je n'y reviens pas. Il y a une dimension ludique, chacun doit pouvoir expérimenter son propre développement, etc. Les écoles de Port-Royal, c'est l'inverse de la répression éducative jésuitique, c'est l'inverse. Mais par rapport au moi, il faut lire les derniers fragments là, qui apportent quelques réponses et qui peuvent paraître bizarres de prime abord et éloignées de la question qu'on vient de traiter, et pourtant on est en plein dans la question. Donc, qu'on s'imagine un corps plein de membres pensants. Alors, il s'agit, c'est une analogie, du corps social, du corps de la société humaine, et chaque membre peut correspondre au moi individuel. Il faut le lire comme ça. Être membre est d'avoir de vie, d'être et de mouvement que par l'esprit du corps et pour le corps. C'est-à-dire ce qu'il montre, c'est qu'il y a une solidarité profonde entre chaque membre d'un corps et le corps global. Et qu'on n'est vivant que parce qu'on est rattaché au corps. Une main toute seule, c'est rien. Une main rattachée au corps, c'est une main pleine de vie, pleine de mouvement, etc. Le membre séparé, ne voyant plus le corps auquel il appartient, n'a plus qu'un être périssant et mourant. Cependant, il croit être tout, et ne se voyant point de corps dont il dépend, il croit ne dépendre que de soi, et veut se faire centre et corps de lui-même. Mais n'ayant point en soi de principe de vie, il ne fait que s'égarer et s'étonne dans l'incertitude de son être, sentant bien qu'il n'est pas corps, et cependant ne voyant point qu'il soit membre d'un corps. Enfin, quand il vient à se connaître, il est comme revenu chez soi et ne s'aime plus que pour le corps. Il plaint ses égarements passés. Je termine juste le paragraphe et le fragment suivant, et après je ferai un commentaire. Il ne pourrait pas, par sa nature, aimer une autre chose, sinon pour soi-même et pour cela servir, parce que chaque chose s'aime plus que tout. Mais en aimant le corps, il s'aime soi-même, parce qu'il n'a d'être qu'en lui, par lui et pour lui. Le fragment suivant. Si les pieds et les mains avaient une volonté particulière, jamais il ne serait dans l'ordre qu'en se soumettant à cette volonté, à la volonté première qui gouverne le corps entier. Hors de là, ils sont dans le désordre et dans le malheur. Mais en ne voulant que le bien du corps, ils font leur propre bien. Ce que dit là Pascal est déterminant. C'est qu'en gros, la vérité, c'est-à-dire la vie, le mouvement propre d'un moi individuel, n'existe que dans l'altérité. Et l'altérité, c'est le corps entier. Autrement dit, et en termes contemporains, Pascal fait une critique radicale de ce qui est aujourd'hui une espèce de principe non plus discuté, non plus discuté. Il faut être autonome. Pascal remet en cause complètement cette notion aujourd'hui qui semble évidente de l'autonomie. Je rappelle qu'autonomie, ça entendre au sens premier du terme, c'est fait de deux mots grecs, autos, qui est le même, soi-même, et nomos, qui est la loi. Nomos, c'est la loi, c'est la règle. Autonomie, c'est le fait de n'obéir qu'à sa propre loi. C'est ça que ça veut dire. Par opposition à hétéronomie, hétéros en grec, c'est autre, c'est le fait d'obéir à la loi d'un autre, de l'autre. Alors, j'entends bien, nos contemporains ont fait la critique de l'hétéronomie en disant « l'hétéronomie, c'est synonyme d'aliénation ». Donc, contre l'aliénation, il faut être autonome. Sauf qu'il faut penser tous les cas entre aliénation et hétéronomie. Et ce que dit Pascal, c'est qu'on ne peut avoir de consistance comme moi individuel que si on s'appuie à ce qui n'est pas soi. Ce qui n'est pas soi, on peut le décliner selon tous les termes qu'on connaît déjà. La société, la nature, Dieu, un principe, la loi, tout ce qu'on veut. Mais si le moi n'est pas étayé par ce corps qui lui donne vie, il sera dans la déshérence totale. Et je crois que c'est une leçon à méditer vraiment pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on connaît particulièrement bien, on les vit dans beaucoup de souffrances, les impasses de l'autonomie. L'injonction de l'autonomie est redoutable de nos jours. Mais dès la naissance, l'enfant est à peine né quand il est soumis à l'injonction d'être autonome aujourd'hui. Il faut que tu sois autonome, mon bébé, hein. Il faut. C'est toujours, si on ne lui demande pas de manger lui-même, par lui-même, j'exagère, mais vous voyez la logique, quoi, dans laquelle on est dans ce monde contemporain. Mais la psychologie n'étant que le reflet, n'étant que la conséquence, que la traduction sociale de cela. Il faut accepter l'hétéronomie sans être aliéné. Mais ce que dit Pascal, il le suggère à la fin, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a, c'est l'universalité qu'il évoque, qu'il y a une communication entre une volonté particulière et la volonté générale. Et juste, j'anticipe sur Rousseau, dans le contrat social, c'est précisément ce que décrit Rousseau. Rousseau dit, la volonté particulière rejoint la volonté générale qui fait que quand j'obéis à tous, la volonté générale, je n'obéis en fait qu'à moi-même. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y a une correspondance, une convergence profonde qu'il faut comprendre entre l'humanité dans ce qu'elle est globale, de totalité, et chacun. C'est-à-dire que l'humanité de chacun n'est pas en dissonance avec l'humanité de l'humanité. C'est ça la question que soulève Pascal et que sur laquelle s'appuiera largement Rousseau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne pense plus comme ça. Aujourd'hui, on est dans l'éclatement qui est qu'on ne pense que la pluralité des volontés particulières qui sont considérées comme toutes légitimes. Mais le problème, c'est que loin de créer le bonheur pour tous, on crée le malheur pour tous, d'une certaine manière. C'est quand même un paradoxe de notre monde contemporain qui est que, objectivement, du point de vue des conditions de vie matérielles, et même des conflits de la guerre, on est dans une société européenne qui n'a jamais été aussi favorable à l'épanouissement et au bonheur. Il faut être objectif. On parle de la violence, on n'arrête pas de parler de la violence, mais parce que on a la mémoire courte. On est d'une société qui n'a jamais été aussi peu violente qu'aujourd'hui. Je suis désolé. Il y a une illusion d'optique. En fait, l'illusion d'optique vient de l'effet de loupe. C'est-à-dire que l'effet de loupe, c'est que comme on est devenu intolérant à la violence parce qu'on est peu habitué à la violence, le même fait divers est gonflé. Mais objectivement, on n'a jamais été dans une société aussi pacifiée. Donc, le paradoxe qui s'éclaire à partir des impasses que pointe Pascal, c'est que on est dans une société où, a priori, les conditions du bonheur seraient réunies. Sauf que, on est dans une société où les gens ne se sentent jamais plus qu'aujourd'hui malheureux. Vous avez ce paradoxe qui est vraiment à penser, et Pascal nous donne des grilles de lecture déterminantes pour ça. Oui, quand on entend les gens ou quand on voit les expressions des gens, on a le sentiment que les gens ne se vivent pas comme heureux. C'est ce qu'on appelle la morosité. On est morose. Il y a personne qui tient un discours selon quoi on est dans une société heureuse. Personne ne tient ce discours-là aujourd'hui. Oui, oui, mais qu'est-ce qui rend le sentiment de non-modeur, c'est précisément que l'harmonie n'existe plus. Bien, avançons, parce que je vois l'heure qui tourne et je veux vraiment qu'on termine aujourd'hui, avec le second texte, donc de Pierre Nicole, Essai de morale. Donc c'est un extrait du premier traité. Donc je rappelle que Pierre Nicole est un des grands port-royalistes, une des grandes figures de Port-Royal, avec Antoine Arnaud. Donc je rappelle, il a publié ce livre déterminant qui est « La logique de Port-Royal », qui est un livre qui fonde la pensée scientifique et la pensée philosophique moderne, en définissant les règles du raisonnement. C'est donc un livre déterminant et qui a eu une énorme influence. Pierre Nicole est également l'auteur, je le rappelle, avec Lancelot, de la grammaire de Port-Royal, qui fixe les règles de la grammaire selon un principe majeur qu'on a oublié, que les pédagogues médiocres d'aujourd'hui feignent d'oublier. Ce qui fait qu'on a une pensée construite, une pensée. Comment on pense? C'est une question très importante. Comment pense-t-on? On pense à travers le langage, à travers un discours organisé, d'accord? Donc on pense à travers des mots qu'on organise en phrases, des phrases qu'on organise ensemble. C'est ce qui fait qu'on pense. On ne peut pas penser si on n'a pas de langage. D'ailleurs, quand on pense tout seul, on a un discours intérieur qui est fait des mots et d'articulations entre les mots. Qu'est-ce qui fait que les mots s'organisent de façon logique et ordonnée? À travers la grammaire. Ce qui fait qu'on pense à travers une bonne grammaire. C'est ce qui fait que, à mes yeux, c'est une parenthèse, le fait qu'aujourd'hui on ait tendance à dire c'est pas grave la façon dont les gens s'écrivent, ils peuvent faire des fautes énormes de grammaire, c'est criminel, c'est profondément criminel, parce que ça veut dire qu'on n'aide pas les gens à penser. On n'aide pas les gens à penser. On peut pas penser correctement avec des phrases complètement boiteuses. Ou je sais pas, les pronoms relatifs sont déterminants, c'est eux qui définissent l'enchaînement logique d'idées. Si on ne sait pas articuler des propositions dans une phrase avec des pronoms relatifs corrects, on va penser n'importe comment. D'où le fait que Port-Royal, ce soit, et donc en particulier Pierre Nicole et Lancelot, se sont intéressés de très près à la question de la grammaire, de la construction de la langue. Je ferme la parenthèse pour dire que Pierre Nicole est une figure majeure. Donc, lisons cet extrait des essais sur la morale. « Mais quoique la raison soit faible, au point où nous l'avons représenté. Ce n'est encore rien, et on laisse de la volonté de l'homme plus grande que celle de la raison. Il faut lire ça, faiblesse de la volonté de l'homme plus grande que la faiblesse de la raison. Peu de gens vivent par la raison, la volonté ne saura résister à des impulsions dont nous savons la fausseté, les passions viennent de faiblesse, besoin que l'âme a d'appui. Mais quoique la raison soit faible au point où nous l'avons représentée, ce n'est encore rien au prix de la faiblesse de l'autre partie de l'homme, qui est la volonté. Et l'on peut dire, en les comparant ensemble, que la raison sait sa force et que sa faiblesse consiste dans l'impuissance où sa volonté se trouve de se conduire par la raison. Il n'y a personne qui ne demeure d'accord que la raison nous est donnée pour nous servir de guide dans la vie, pour nous faire discerner les biens et les maux, pour nous régler dans nos désirs et dans nos actions. Mais combien y en a-t-il peu qui l'emploient à cet usage et qui vivent, je ne dis pas selon la vérité et la justice, mais selon leur propre raison, toute aveugle et toute corrompue qu'elle est. Nous flottons dans la mer de ce monde au gré de nos passions qui nous emportent tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, comme un vaisseau sans voile et sans pilote. Et ce n'est pas la raison qui se sert des passions, ce sont les passions qui se servent de la raison pour arriver à leur fin. C'est tout l'usage que l'on en fait ordinairement. Donc le constat est redoutable, la raison n'est pas toute puissante. Autrement dit, c'est une critique très forte du cartésianisme de Descartes. Descartes, le moi pensant, c'est la pierre angulaire de l'anthropologie de Descartes, c'est-à-dire de la constitution de l'humain. Et là, c'est une destruction de cette construction-là. Souvent, même la raison n'est pas corrompue. Elle voit ce qu'il faudrait faire. Et elle est convaincue du néant des choses qui nous agitent. Mais elle ne saurait empêcher l'impression violente qu'elles font sur nous. C'est tellement juste. Mais ça, on peut en faire l'expérience tous les jours. On sait bien qu'il faudrait qu'on fasse ça. Et on ne le fait pas. Et on se comporte autrement. Combien de gens s'allaient autrefois battre en duel en déplorant et en condamnant cette misérable coutume et se blâmant eux-mêmes de la suivre. Mais ils n'avaient pour cela la force de mépriser le jugement de ces fous qui les eussent traités de lâches s'ils eussent obéi à la raison. Combien de gens se ruinent en folles dépenses et se réduisent à des misères extrêmes parce qu'ils ne sauraient résister à la fausse honte de ne pas faire comme les autres. On retrouve le jeu social de Pascal. Hein. Qu'y a-t-il de plus aisé que de convaincre les hommes du peu de solidité de tout ce qui les attire dans le monde ? Cependant, avec tous ces raisonnements, le fantôme de la réputation, la chimère des honneurs et du rang, et mille autres choses aussi vaines les emportent et les renversent, parce que leur âme n'a point de force, de solidité, ni de fermeté. Que dirait-on d'un soldat qui étant averti que dans un spectacle où l'on représenterait un combat, les canons et les mousquets ne soient point chargés à balles, ne laisserait pas de baisser la tête et de s'enfuir au premier coup de mousquet? C'est-à-dire, c'est un faux danger. C'est un faux danger. Et en fait, il s'enfuit quand même. C'est une comparaison par rapport à... Alors que toutes ces chimères qui corrompent la raison, qui font que la raison se soumet à une volonté pulsionnelle autre, ce ne sont que des chimères. Et pourtant, l'homme, ayant peur de cette menace que sont ces chimères, la peur, par exemple, d'essuyer la honte des autres, va quand même faire comme ce soldat qui fuit des armes non chargées. Ne dirait-on pas que sa lâcheté approcherait de la folie? Et n'est-ce pas cependant ce que nous faisons tous les jours? On nous avertit que les discours et les jugements des hommes sont incapables de nous nuire, comme ils ne nous peuvent servir de rien. qu'ils ne peuvent nous ravir aucun de nos biens, ni soulager aucun de nos maux. Et néanmoins, ces discours et ces gisements ne laissent pas de nous renverser et de nous faire sortir notre âme de son assiette, de nous déstabiliser complètement, de nous dérouter complètement. Une grimace, une parole de chagrin nous met en colère et nous nous préparons à les repousser comme si c'était quelque chose de bien redoutable. Il faut nous flatter et nous caresser comme des enfants pour nous tenir en bonne humeur. Autrement, nous jetons des cris à notre mode, comme les enfants à la leur. À notre mode, c'est-à-dire à notre façon. Comme les enfants à la leur. Autrement dit, le jugement est implacable, nous sommes tous des grands enfants, quoi. Il est certain que l'impatience que les hommes témoignent dans toutes ces occasions vient de quelques passions qui les possèdent. Mais les passions mêmes viennent de faiblesse et du peu d'attachement que leur âme a au bien véritable et solide. Et pour le comprendre, il faut considérer que comme ce n'est pas une faiblesse à notre corps d'avoir besoin de la terre pour nous soutenir, parce que c'est la condition naturelle de tous les corps, mais que l'on ne dit qu'il est faible que lorsqu'on a besoin d'appui étranger, qu'il le faut porter, ou qu'il lui faut un bâton, et que le moindre vent est capable de le renverser. De même, ce n'est pas une faiblesse à l'âme d'avoir besoin de s'appuyer sur quelque chose de véritable et de solide, de ne pouvoir pas subsister comme suspendu en l'air sans être attaché à un objet. Ça, c'est une comparaison qui est très intéressante et qui rejoint ce qu'on a vu avant chez Pascal de l'illusion de l'autonomie. Ou si c'est une faiblesse, elle est essentielle à la créature qui, ne se suffisant pas à elle-même, a besoin de chercher ailleurs le soutien qu'elle ne trouve pas en soi. Donc c'est une autre approche de la critique de l'autonomie et de la vertu de prendre en compte l'hétéronomie. Mais la faiblesse véritable de l'âme consiste en ce qu'elle s'appuie sur le néant, comme dit l'Écriture, et non sur des choses réelles et solides. Ou que si elle s'appuie sur la vérité, cette vérité ne lui suffit pas, qu'elle n'ait encore besoin de 1000 autres soutiens, par la soustraction desquels elle tombe incontinent dans l'abattement. Elle consiste en ce que le moindre souffle est capable de la faire sortir de l'état de son repos, que les moindres bagatelles l'ébranlent, l'agitent, la tourmentent, et qu'elle ne peut résister à l'impression de 1000 choses dont elle reconnaît elle-même la fausseté et le néant. Alors, ce texte est avant tout une critique remarquable de la raison toute-puissante. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'homme, contrairement à ce que pense largement Descartes et bien d'autres par la suite, n'est pas mu que par sa seule raison. Et c'est la limite, par exemple, de Kant, d'Emmanuel Kant qui vient après et qui fonde la morale, les fondements pour une morale, c'est que Kant pense que la morale, c'est un ensemble de devoirs, de règles auxquelles l'homme doit se conformer. Le problème, c'est que ces devoirs, il les fait découler de la raison humaine dont il pense qu'elle est universelle. Et la limite de cette pensée, c'est que la raison est peut-être universelle, mais elle n'est pas toute puissante. C'est-à-dire que l'homme n'agit pas, ne pense pas, n'éprouve pas que selon sa raison. Un autre facteur joue un rôle déterminant. Sa volonté obéit notamment à ce jeu d'image sociale qui vient des autres et obéit à ses passions sociales. La peur d'essuyer la honte, la peur d'être mal vu de l'autre, toutes les peurs, et à l'inverse, le désir d'être flatté, le désir que les autres nous louent, et ainsi de suite. Donc toutes ces passions sociales qui renvoient à ce moi, à Issav, comme dit Pascal, c'est ce qui fait que la volonté n'est que très peu inspirée par la raison, mais beaucoup plus par ce qui agite l'individu humain et qui le détourne de la raison. Voilà en fait ce que dit. Donc c'est intéressant parce que on est là dans une critique des limites de la rationalité de l'individu. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que dit Nicole, c'est ceci. Il y a deux sièges qui meut, qui indiquent une direction aux hommes, qui les mettent en mouvement. C'est la raison qui siège dans leur esprit, et c'est la volonté. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'adéquation complète entre la raison et la volonté. C'est-à-dire que la raison n'est pas ce qui détermine seulement la volonté. Que la volonté est déterminée par autre chose que la raison. Elle peut être déterminée pour une petite part par la raison, parce que l'homme sait bien en raison ce qu'il devrait faire. Mais il n'a pas la volonté de le faire, pour autant. Et qu'est-ce qui fait que la volonté ne suit pas, ou ne suit que très peu la raison? C'est que d'autres forces déterminent la volonté. Et d'autres forces qui déterminent la volonté, c'est justement les passions. C'est la faiblesse de la raison. C'est que la raison est faible. L'homme a une raison très faible, qui fait que sa raison est corrompue et est pervertie par plein d'autres déterminants. Et par ailleurs, la volonté de l'homme est aussi faible, mais moins faible que la raison. La volonté qui donne une puissance de mouvement est déterminée par plein de paramètres, y compris un peu la raison. Mais la volonté est puissance en soi, au départ. Parce que la volonté, c'est ce qui met en mouvement. Et après, la volonté est mise en mouvement, cette puissance passe à l'acte. On retrouve Aristote, le passage de la puissance à l'acte. Parce que la puissance, ce n'est qu'une potentialité, hein. La puissance ne réalise rien. Ce qui réalise, c'est le passage de la puissance à l'acte. Et l'acte, c'est cette dynamique de la volonté qui permet de le réaliser. Et cette dynamique de la volonté obéit à plein de paramètres, dont, encore une fois, un petit peu la raison. Et beaucoup les passions et le jeu social. Les passions sociales, notamment. C'est pas simplement l'émotionnel, hein, chez Pascal, comme il faut se raccrocher aux stoïciens et aux épicuriens. Disons que, pour simplifier et aller vite, parce qu'il faut qu'on avance, ce qui est le plus proche d'une définition exacte de passion de leur point de vue, à ces philosophes, c'est de remplacer passion par désir. Clairement, prenons d'abord les épicuriens et les stoïciens, qui sont très proches les deux de ce point de vue-là, et qui inspirent largement des gens comme Montaigne, et on va le voir maintenant, et comme Pascal, comme Rousseau, etc. Aucun d'eux n'a la prétention de dire, ce qui serait stupide, que les passions, on peut les faire disparaître. Donc les passions, de toute manière, elles existent toujours. Après, du point de vue d'une morale, c'est-à-dire d'un guide de comportement qui permet d'accéder à la vérité de l'être et au bonheur, parce que c'est complètement lié chez tous, les passions sont de mauvais génie, incontestablement. On ne peut pas les supprimer, mais aucun d'eux ne va considérer que les passions en soi peuvent être bonnes. Il n'y a pas de positivité fondamentalement, ontologiquement, des passions. La passion, oui, c'est une aliénation. C'est-à-dire que la passion, bon, je n'ai pas le temps de trop développer. Les passions renvoient fondamentalement à la dimension corporelle de l'humain. Les passions, c'est le corps. Le corps, d'où naissent les sensations, les émotions, et d'où découlent les passions. Fondamentalement, c'est ça. Mais ça, il faut comprendre que c'est une constance, ce que je viens de dire, de la philosophie grecque antique jusqu'au XVIIe siècle, pascalien et de Port-Royal. Les passions ne sont pas dissociables du corps. Voilà, clairement. Et le but, c'est de les orienter ou de ne pas être sous l'empire de ces passions, ce qui est du coup l'aliénation. La volonté, c'est la puissance qui met en mouvement l'homme. La volonté est motrice, c'est le moteur, la volonté. En lien avec l'esprit, la raison et les passions. Bon, on essaie d'en venir au dernier texte qui permet de reprendre ça, sachant que c'est le plus long, mais je vais n'en commenter que des extraits, en lire que des extraits. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans les pensées de Pascal, et c'est l'extrait de l'entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, sur Épictète. Épictète, qui est ce grand philosophe grec qui est associé au stoïcisme, et Montaigne. Je rappelle le stoïcisme en général et Épictète, pour ceux qui étaient là, qu'on avait abordé l'an dernier, doctrine majeure, c'est de dire il faut s'attacher à ce qui dépend de soi et négliger ce qui ne dépend pas de soi. Et ce qui ne dépend pas de soi, c'est en gros tout, c'est à peu près tout, c'est-à-dire c'est les actes, les paroles et les volontés des autres, c'est le destin, c'est ce qui vient, ce qui commande le destin, les maladies, alors sur le corps, les défaillances du corps, c'est tout cela qui ne dépend pas de soi. Donc ça ne sert à rien de se meurtrir l'esprit par rapport à la maladie, même par rapport à la mort, par rapport au regard d'autrui sur soi, par rapport au fait qu'autrui va nous voler, un vol, parce que ça, on n'y peut rien, ça ne dépend pas de soi, on n'a aucune maîtrise dessus. Voilà. Voilà, en gros, pour résumer, un des nœuds de la pensée du stoïcisme. Donc, je lis le début, et puis après, on va aller au cœur du sujet. Donc, Monsieur Pascal vint aussi, en ces temps-là, demeurer à Port-Royal des Champs. Je rappelle qu'il s'installe à Port-Royal des Champs en 1655. Et pour mémoire, Pascal est né en 1623. Donc, ça veut dire que il a 32 ans. Voilà. Donc, c'est dire qu'il est déjà reconnu comme une des grandes figures intellectuelles et scientifiques de la société non seulement française, mais européenne. Je ne m'arrête point à dire qui était cet homme que non seulement toute la France, mais toute l'Europe a admiré. Son esprit toujours vif, toujours agissant, était d'une étendue, d'une élévation, d'une fermeté, d'une pénétration et d'une netteté au-delà de ce qu'on peut croire. Cet homme admirable, enfin, étant touché de Dieu, soumet cet esprit s'élever au joug de Jésus-Christ, et ce cœur si noble et si grand embrassa avec humilité la pénitence. Donc je ne redis pas toutes les précautions qu'il faut prendre pour lire ça correctement. Il va à Paris se jeter entre les bras de Monsieur Singlin. Alors Monsieur Singlin, c'est une des grandes figures de Port-Royal, c'est un des directeurs de conscience de Port-Royal. Résolu de faire tout ce qu'il lui ordonnerait, Monsieur Singlin crut en voyant ce grand génie qu'il le ferait bien de l'envoyer à Port-Royal des Champs, où Monsieur Arnaud lui prêterait le collet. Prêterait le collet, c'est une expression du XVIIe, ça veut dire lui tenir tête, l'affronter dans des disputations, dans des joutes intellectuelles. en ce qui regarde les autres sciences, et où monsieur de Sacy lui apprendrait à les mépriser. Alors, je lis encore ce paragraphe qui est de contexte. La conduite ordinaire de, c'est le troisième, avec monsieur de Sacy, en entretenant les gens, était de proportionner ses entretiens à ceux à qui il parlait. C'est la grandeur de Sacy. S'il voyait, par exemple, monsieur Champaigne, Philippe de Champaigne, le grand peintre, il parlait avec lui de peinture. S'il voyait monsieur Hamon, c'était un grand médecin de Port-Royal. Il l'entretenait de la médecine. S'il voyait le chirurgien du lieu, il le questionnait sur la chirurgie. Ceux qui cultivaient ou la vigne, ou les arbres, ou les grains, lui disaient tout ce qu'il fallait observer. Tout lui servait pour passer aussitôt à Dieu, et, disons à la métaphysique, et pour y faire passer les autres. Il crut donc devoir mettre monsieur Pascal sur son fond, et lui, sur son fond, sur son terrain, c'est volé, et lui parler des lectures de philosophie dont il s'occupait le plus. Il le mit sur ce sujet aux premiers entretiens qu'ils eurent ensemble, mieux que Pascal lui dit que ses deux livres les plus ordinaires avaient été Épictète et Montaigne. Alors, les plus ordinaires, les plus... Courant. Et il lui fit de grands éloges de ces deux esprits. Monsieur de Sacy, qui avait toujours cru devoir peu lire ses auteurs, pria monsieur Pascal de lui en parler à fond. Et donc Pascal commence. Donc là, on lit ce que Pascal dit d'Épictète, donc il résume la pensée d'Épictète, et après il va faire une critique déterminante d'Épictète. Épictète, lui dit-il, est un des philosophes du monde qui ait mieux connu les devoirs de l'homme. Il veut avant toute chose qu'il regarde Dieu comme son principal objet. Juste une remarque au passage. L'autre fois, et celle d'avant, j'avais beaucoup insisté que pour ne pas lire Pascal en ayant un écran devant les yeux en tant que contemporain non religieux, par exemple, il faut pouvoir traduire Dieu, Jésus-Christ, la foi, etc., en termes contemporains, et j'avais évoqué aussi bien le réel, le tout autre, le premier principe, etc., que la nécessité, l'être nécessaire, etc. On voit que Pascal ne procède pas différemment. Quand il dit d'Épictète, il veut avant toute chose qu'il regarde Dieu comme son principal objet. Je vous rappelle quand même qu'Épictète n'était pas chrétien. Qu'Épictète ne croyait pas au Dieu des chrétiens. Et pourtant, Pascal s'autorise tout à fait légitimement à transposer et à définir la pensée d'Épictète par rapport à Dieu. C'est une transposition tout à fait légitime, comme nous, tout à fait légitimement, on peut transposer le langage apparemment religieux, mais qui est un langage avant tout de philosophie morale de Pascal, avec d'autres catégories et d'autres termes que Dieu. Juste une parenthèse, voilà. Parce que je rappelle qu'Épictète était dans la culture grecque, et que c'était une culture polythéiste, et il n'y avait pas Dieu, il y avait des dieux, mais il y avait un premier principe totalement abstrait, que Pascal traduit par Dieu. Je rappelle que le dernier des grands philosophes néoplatoniciens, qui est l'aboutissement de toute cette chaîne de pensée qui vit à la fin de l'Empire romain, au moment de la décadence, au 5e siècle de notre ère, qui s'appelle Damasius, son grand livre se traduit en français par « des premiers principes ». Des premiers principes, il ne dit pas Dieu, parce que Damasius, il va même être rejeté par l'Empire chrétien d'Occident, par Rome. C'est-à-dire que Damasius vit au temps où Rome est devenue chrétienne et où l'Empire est chrétien. Et Damasius, comme tous les philosophes grecs de l'époque, va devoir partir de Rome pour aller vivre dans ce qui est l'équivalent du Proche-Orient aujourd'hui. On ne sait pas trop où il est parti, d'ailleurs, il y a peu de traces. Sans doute qu'il est retourné en Syrie, d'où son nom Damasius, ou en grec Damasios. Ça veut dire qu'il était de Damas. Donc on pense qu'il est sans doute retourné en Syrie, mais peut-être est-il retourné à ce qui est aujourd'hui l'Irak. On ne sait pas trop, voilà. Pour s'extraire du risque de répression de l'Empire romain. Donc c'est dire qu'il ne croyait pas au Dieu, à Dieu, au sens chrétien du terme. Ça n'empêche Pascal de faire la transposition. Donc, qu'il regarde Dieu comme son principal objet, qu'il soit persuadé qu'il gouverne tout avec justice, qu'il se soumette à lui de bon cœur, qu'il le suive volontairement en tout, comme ne faisant rien qu'avec une très grande sagesse. On parle toujours d'Épictète. Enfin, Pascal parle toujours d'Épictète. Qu'ainsi cette disposition arrêtera toutes les plaintes et tous les murmures et préparera son esprit à souffrir paisiblement tous les événements les plus fâcheux. Alors, qu'il n'y ait pas de contresens, Épictète n'est pas un maso, comme on dit aujourd'hui. Souffrir, ça veut dire supporter, on est d'accord. C'est pas un culte de la souffrance. Je rappelle que les stoïciens, comme les épicuriens, leur objectif, c'est d'atteindre le bonheur de l'âme. D'accord. Ne dites jamais, dit-il, j'ai perdu cela, dites plutôt, je l'ai rendu. Mon fils est mort, je l'ai rendu. Ma femme est morte, je l'ai rendu. Ainsi des biens et de tout le reste. Mais celui qui me l'ôte est un méchant homme, dites-vous. De quoi vous mettez-vous en peine par qui celui qui vous l'a prêté vous le redemande? Pendant qu'il vous en permet l'usage, ayez en soin comme d'un bien qui appartient à autrui. Comme un homme qui fait voyage se regarde dans une hôtellerie. Vous ne devez pas, dit-il, désirer que ces choses qui se font se fassent comme vous le voulez. Mais vous devez vouloir qu'elles se fassent comme elles se font. Bon, là, Pascal résume très précisément et de façon brillante le fond de la pensée d'Épictète, du stoïcisme. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Il ne déforme rien. Souvenez-vous, dit-il ailleurs, que vous êtes ici comme un acteur et que vous jouez le personnage d'une comédie tel qu'il plaît au maître de vous le donner. On retrouve complètement Pascal. S'il vous le donne court, jouez le court. S'il vous le donne long, jouez le long. S'il veut que vous contrefassiez le gueux, vous le devez faire avec toute la naïveté qui vous sera possible, ainsi du reste. C'est votre fait de jouer bien le personnage qui vous est donné, mais de le choisir, c'est le fait d'un autre. Alors, c'est toute la problématique entre liberté et nécessité qu'on a vue avant par rapport à Pascal. Je ne reviens pas là-dessus, autrement on ne s'en sortira pas. Pascal, toute la pensée de Pascal par rapport à la grâce, c'est de concilier, d'articuler ensemble, dans une espèce de dialectique, d'une tension, liberté et nécessité, c'est-à-dire liberté et grâce. Et ce que Pascal dit, c'est qu'on retrouve cette façon de penser chez Épictète, au fond. Ayez tous les jours devant les yeux la mort et tous les maux qui semblent les plus insupportables, et jamais vous ne penserez rien de bas, ne désirerez rien avec excès. Il montre aussi en mille manières ce que doit faire l'homme. Il veut qu'il soit humble, qu'il cache ses bonnes résolutions, surtout dans les commencements, et qu'il les accomplisse en secret. Rien ne les ruine davantage que de les produire en public, de faire état. Il ne se lasse point de répéter que toute l'étude et le désir de l'homme doit être de reconnaître la volonté de Dieu et de la suivre. Voilà, monsieur, dit monsieur Pascal à monsieur de Sacy, les lumières de ce grand esprit qui a si bien connu les devoirs de l'homme. J'ose dire qu'il méritait d'être adoré s'il avait connu son impuissance, puisqu'il fallait être Dieu pour apprendre l'un et l'autre aux hommes. Aussi, comme il était terre et cendre, après avoir si bien compris ce qu'on doit, voici comment il se perd dans la présomption de ce qu'on peut. Il dit que Dieu a donné à l'homme les moyens de s'acquitter de toutes ses obligations, que ces moyens sont en autre puissance, qu'il faut chercher la félicité par les choses qui sont en notre pouvoir, puisque Dieu ne les a données à cette fin, qu'il faut voir ce qu'il y a en nous de libre, que les biens, la vie, l'estime ne sont pas en notre puissance et ne mènent non pas à Dieu, mais que l'esprit ne peut être forcé de croire ce qu'il sait être faux, ni la volonté d'aimer ce qu'elle sait qui la rend malheureuse. Que ces deux puissances sont donc libres, et que c'est par elles que nous pouvons nous rendre parfaits. Que l'homme peut par ses puissances parfaitement connaître Dieu, l'aimer, lui obéir, lui plaire, se guérir de tous ses vices, acquérir toutes les vertus, se rendre saint ainsi et compagnon de Dieu. Ces principes d'une superbe diabolique le conduisent à d'autres erreurs, comme que l'âme est une portion de la substance divine, que la douleur et la mort ne sont pas des maux, qu'on peut se tuer quand on est si persécuté qu'on peut croire que Dieu nous appelle et d'autres encore. En gros, la critique de Pascal, qui est radicale et qui doit nous en faire rabattre quant à la séduction qu'exerce l'épicurisme, c'est que l'épicurisme est d'une prétention sans borne. L'épicurisme fait comme si on était des hommes-dieux, ce qui est éminemment contemporain pour aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, notre grand tort, c'est de considérer que l'homme est Dieu. On commence d'ailleurs dès l'enfance. L'enfant qui naît, vous regardez les faire-part de naissance, il est né le divin enfant. Hein. Dès l'enfant naissant, on fait de l'homme un dieu, quoi. Et on se considère comme un Dieu en toute puissance. C'est-à-dire qu'on aurait une liberté sans limite. L'impasse de cela, on la connaît aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société de l'illimité et d'un homme qui se veut illimité. Et ça, c'est une impasse redoutable. Le transhumanisme, c'est une conséquence de cela. Ou ce qu'on appelle aussi l'humanité augmentée. C'est-à-dire que on est dans l'ambition, la prétention que l'homme peut avoir une liberté, une puissance illimitée. On n'est plus du tout dans la mesure qui est celle ô combien pascalienne et de Port-Royal, qui consiste à dire l'homme est faible et ne peut que peu. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas libre, mais d'une liberté limitée, comme sa volonté est limitée. Et de ce point de vue-là, ce que Pascal reproche aux stoïciens et à Épictète, c'est d'être d'une certaine manière les précurseurs de notre prétention contemporaine, moderne. Notre prétention moderne qui démarre, alors historiquement avec la Renaissance, et le fameux dessin de Léonard de Vinci, archi connu, un homme, les membres écartés, dans un cercle, et son nombril, c'est le centre du cercle. Voilà. Ça, c'est la rupture qui introduit l'avènement des temps modernes, de notre modernité. C'est la rupture de la Renaissance. Et ça rejoint profondément la pensée des stoïciens de ce point de vue-là. Ce qui n'est pas étonnant parce que la Renaissance, c'est un mouvement de retour à la pensée grecque antique. À la Renaissance, vous avez à nouveau des néoplatoniciens, des stoïciens, des épicuriens, etc. C'est-à-dire que toute la pensée de la Renaissance est un retour à la pensée grecque antique. Donc c'est pas étonnant qu'on voit une ligne de continuité. Et ce que montre Pascal, c'est que c'est une prétention qui mène à l'impasse. Passons-en à Montaigne maintenant. Et il revient un petit peu après aussi, encore un petit peu sur Épictète. Pour Montaigne, dont vous voulez aussi, monsieur, que je vous parle. Étant né dans un état chrétien, il fait profession de la religion catholique. Et en cela, il n'a rien de particulier. Mais comme il a voulu chercher quelle morale, la raison, devrait dicter sans la lumière de la foi, il a pris ses principes dans cette supposition. Et ainsi, en considérant l'homme destitué de toute révélation, il discourt en cette sorte. Il met toute chose dans un doute universel et si général que ce doute s'emporte soi-même. C'est-à-dire qu'il doute s'il doute. Et doutant même de cette dernière proposition, son incertitude roule sur elle-même dans un cercle perpétuel et sans repos. C'est un résumé et une critique de Montaigne absolument géniale. C'est la critique de ce qu'on appelle à l'époque, et en reprenant le terme grec antique, le pyrrhonisme. Et le pyrrhonisme, ça vient de ce philosophe grec Pyrrhon, P-Y-2-R-H-O-N, et Pyrrhon, c'est le tenant de ce courant philosophique qui est ce que l'on appelle le scepticisme, les sceptiques. C'est-à-dire qu'ils sont dans le doute radical. Mais la critique de Pascal par rapport à cela, c'est que c'est une pensée qui met en place un tourniquet sans fin. Vous savez, le tourniquet, quand vous passez, vous avez certaines entrées dans des lieux climatisés, des cafés, mais ça peut être des bureaux, vous avez un tourniquet comme ça. C'est comme si vous tournez sans arrêt. Vous n'en sortez pas. Et ce que montre Pascal, c'est que le pyrrhonisme de Montaigne c'est abouti à une impasse qui est d'être dans un tourniquet sans fin. C'est-à-dire que j'en viens à douter que je doute. Mais si je doute que je doute, c'est une impasse. Alors c'est que je ne doute pas. Mais si je ne doute pas que je doute, alors c'est que je doute. Mais si je doute que je doute, c'est que je ne doute pas. Vous voyez, c'est en fait ce cercle vicieux sans fin qui est une impasse, qui est une impasse totale. Et Pascal montre la limite profonde de Montaigne dans son pyrrhonisme. Alors, deux choses. Hein. Rappelez-vous que c'est une réécriture, que c'est pas Pascal qui a construit la chose comme ça, mais c'est Nicolas Fontaine, le témoin. Et que d'autre part, par la suite, il y a un développement sur la pensée de Montaigne, hein, les pages suivantes, qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder, c'est tout un développement sur la pensée de Montaigne où il explique pourquoi il dit cette impasse. Mais là, compte tenu de l'heure, je vais passer juste, ma foi, vous lirez vous-même, à quelque chose qui me paraît important, qui est vers la fin. On va passer à la page 6. Vers le milieu, je commence là. Il est vrai, monsieur, que vous venez de me faire voir admirablement le peu d'utilité que les chrétiens peuvent retirer de ces études philosophiques. Je ne laisserai pas néanmoins, avec votre permission, de vous en dire encore ma pensée. Prêt néanmoins à renoncer à toutes les lumières qui ne viendront point de vous, en quoi j'aurai l'avantage ou d'avoir rencontré la vérité par bonheur, ou de la recevoir de vous avec assurance. Il me semble que la source des erreurs de ces deux sectes, alors secte à l'époque, c'est ces deux écoles de pensée que sont d'un côté le stoïcisme avec Épictète et d'un autre côté le pyrrhonisme ou le scepticisme avec Montaigne. C'est les deux mélangés. Alors là c'est de Sacy au début. Il me semble que la source des erreurs de ces deux sectes est de n'avoir pas su que l'état de l'homme à présent diffère de celui de sa création. De sorte que l'un, Épictète, remarquant quelques traces de sa première grandeur et ignorant sa corruption, a traité la nature comme saine, sans besoin de réparateur, ce qui le mène au comble de la superbe. Au lieu que l'autre, Montaigne, éprouvant la misère présente et ignorant la première dignité, traite la nature comme nécessairement infirme et irréparable, ce qui le précipite dans le désespoir d'arriver à un véritable bien et de là dans une extrême lâcheté. Ainsi, ces deux états qu'il fallait connaître ensemble pour voir toute la vérité, étant connus séparément, conduisent nécessairement à l'un de ces deux vices, l'orgueil et la paresse, où sont infailliblement tous les hommes avant la grâce. L'orgueil, c'est le côté épictète, stoïcien. La paresse, c'est le côté pyrrhonisme, sceptique, Montaigne. Puisque s'ils ne demeurent dans leur désordre par lâcheté, ils en sortent par vanité, tant il est vrai que ce que vous venez de me le dire de saint Augustin est que je trouve d'une grande étendue, car en effet, on leur rend hommage en bien des manières. C'est donc de ces lumières imparfaites qu'il arrive que l'un, Épictète, connaissant les devoirs de l'homme, ignorant son impuissance, se perd dans la présomption et que l'autre, Montaigne, connaissant l'impuissance et non le devoir, s'il s'abat dans la lâcheté d'où il semble, puisque l'un est la vérité ou l'autre est l'erreur, que l'on formerait en les alliant une morale parfaite. Mais au lieu de cette paix, il ne résulterait de leur assemblage qu'une guerre et qu'une destruction générale. Car l'un établissant la certitude, l'autre le doute, l'un la grandeur de l'autre, de l'homme, l'autre sa faiblesse. Donc l'un la grandeur et peut-être l'autre sa faiblesse, Montaigne. Il ruine la vérité aussi bien que la fausseté de l'un et de l'autre. De sorte qu'ils ne peuvent subsister seuls à cause de leurs défauts, ni s'unir à cause de leurs oppositions. Et qu'ainsi ils se brisent et s'anéantissent pour faire place à la vérité de l'Évangile. C'est elle qui accorde les contrariétés par un art tout divin, et unissant tout ce qui est vrai et chassant tout ce qui est faux, elle en fait une sagesse véritablement céleste où s'accordent ses opposés. Donc là, on est dans une espèce de dialectique qui est très intéressante, qu'il faudrait les développer longuement, mais si vous voulez, ce qui est en train de montrer de Sacy, c'est-à-dire la pensée de Port-Royal, en accord avec Pascal, c'est que il n'y a pas un seul plan de vérité. La limite de l'homme, c'est d'avoir érigé depuis son esprit la vérité sur un plan homogène. Il y a des plans différents d'être, ce qui est la pensée profondément des néoplatoniciens. Ce qui est, il faut toujours rapporter une proposition qu'on dit vraie à un plan. C'est vrai, c'est quasiment la pensée des fonctions en mathématiques rapportées aux coordonnées. Ce qui est vrai doit toujours se rapporter à un plan. Donc ce qui est vrai sur un plan est faux sur un autre plan. Donc le problème du doute pyrrhonien ou de l'affirmation de la puissance de la liberté humaine stoïcien est porteur de vérité si on les situe chacune sur un plan différent. C'est vrai d'une certaine manière, sous un certain plan. Ce qui explique cette puissance de la pensée de Port-Royal, qui, et je raccroche à ce que j'avais évoqué dans l'autre texte de Pascal par rapport d'un côté aux jésuites qui croient à la liberté totale de l'homme, et d'un autre côté, aux calvinistes, qui croient en l'absence complètement de liberté de l'homme et à la toute-puissance de la prédétermination. Ce que la pensée de Port-Royal, de Pascal, etc., a de grand, c'est d'essayer de se sortir de ces deux impasses, en se tenant sur une ligne de crête qui tient, c'est une dialectique extrêmement profonde, les deux exigences de vérité en même temps. Et la façon de résoudre ça, c'est d'être sur des plans différents, de situer les plans différents. Alors, le plan du point de vue d'une lecture chrétienne, d'une lecture de la Bible, les plans, ce sont les suivants. C'est le Dieu d'avant l'homme d'avant la chute et l'homme de l'histoire après la chute. Donc, l'homme de l'histoire qui est corrompu par la société. L'homme corrompu est faible et doit douter. L'homme, dans son être premier, donc d'avant la corruption de l'histoire, a une liberté fondamentale. Eh bien, on va retrouver, avec des mots différents, exactement la même logique de pensée chez un Rousseau. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre chez Rousseau le fait qu'il ait recours au départ à l'état de nature. L'homme est bon naturellement. On est dans une continuité complète de pensée. Donc ça me permet de faire le lien avec Rousseau. On en reste là. Voilà. Et vous lirez, j'ai été un peu rapide sur ce texte, mais vous pouvez le lire. Je vous propose de le lire si vous voulez vous-même. Et puis éventuellement, s'il y avait des questions ou des remarques, on entreprendra ça la prochaine fois.